Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campusil.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Deuxième partie de cette émission, elle est consacrée donc au festival Cité Philo. Nous avons déjà, la semaine dernière, présenté un aspect de ce festival, ou plusieurs aspects même. Aujourd'hui, c'est un autre aspect que nous allons traiter avec Karine Boquet, donc, qui est professeure de philosophie et responsable du thème de cette année, le thème étant « Nous vivons ». Bonjour Karine Boquet.
Bonjour.
Alors, un thème « Nous vivons », bon, c'est bien dans l'air du temps de se prétendre et de revendiquer de l'être.
Alors, prétendre et revendiquer, c'est plus un sujet, enfin une proposition que nous faisons et que nous soumettons un peu à la discussion. Donc évidemment, c'est dans l'air du temps, c'est un peu plus que dans l'air du temps quand même, parce qu'en fait, depuis au moins une vingtaine d'années quand même, d'autant plus depuis une vingtaine d'années, ben, on reconsidère en fait le vivant. Et dans l'actualité récente, nous avons pu prendre conscience effectivement de notre appartenance au vivant, de notre fragilité de vivant, crise sanitaire, crise aussi écologique, hein, celle-là était prévue depuis plus longtemps, hein, à partir des années 70, on a commencé à en parler, mais c'était resté lettre morte, ça l'est encore en partie. Donc voilà, c'est questionner notre appartenance au vivant, la questionner, la définir, nous préciser comme vivant, penser les relations entre vivants. Donc il y a un volet, bien sûr, biologique, hein, mais il y a aussi un volet éthique, un volet politique. Et puis c'est un énoncé, nous vivons. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce qui suivait le « nous », c'était nous, membres de telle ou telle communauté, nous Français, nous Européens, nous humains. Et puis, cet énoncé qui aurait pu choquer, hein, choque moins maintenant. C'est-à-dire que, à la limite, en poussant, nous pouvions nous penser, nous, animaux, voilà, depuis un peu plus d'un siècle, un siècle et demi, mais on travaillait toujours en philosophie, en sciences humaines, hein, sur ce qui distinguait cet animal qu'est certes l'homme du propre de l'humain. Qu'est-ce qui faisait que l'homme se séparait de son animalité? Donc, par exemple, les sciences humaines, elles travaillaient sur l'opposition entre nature-culture, le cru, le cuit, les êtres vivants et les animaux ont une évolution, mais nous, nous avons une histoire. Voilà, c'était comme toujours mettre l'accent sur l'homme. Et voilà, ces choses ont changé et il s'agissait, nous avons eu plein de rencontres hein, depuis des années sur le vivant, le rapport aux autres vivants, la biologie, etc. Mais il s'agissait vraiment de faire un focus, de s'arrêter un peu et puis certes de diagnostiquer un peu où on en est dans la recherche, mais aussi d'essayer de d'ouvrir des perspectives, hein, de trouver, de découvrir des ressources nouvelles, à la fois théoriques et pratiques, pour gagner un petit peu en optimisme, on va dire.
Dans la philosophie, est-ce qu'il y a des phases, des périodes où le vivant a été considéré autrement? Et est-ce que l'homme, la place de l'homme dans le vivant, justement, était l'objet de philosophie particulière, enfin de courants particuliers en philosophie?
Alors moi je ne suis pas spécialiste, mais je dirais justement que c'est depuis une vingtaine d'années hein, qu'il y a une nouvelle reconsidération du vivant. Alors bien sûr, par exemple, si on se plonge dans l'Antiquité, on va avoir une définition par Aristote, enfin elle est un peu complexe, hein, mais ça dépend des traductions, mais comme vivant, zone, vivant, parfois traduit comme animal, alors animal qui a le langage, animal politique. Donc c'était une première définition de l'homme comme certes membre, enfin appartenance à un ordre singulier, hein, différent des autres animaux et des autres vivants, parce qu'il a une âme particulière, etc. Et puis on va dire que notre modernité s'est construite sur tout autre chose, hein, c'est-à-dire sur le modèle cartésien. l'homme comme sujet, être de conscience, de liberté, ayant une certaine transparence à lui-même, et puis donc pouvant se rendre comme maître et possesseur de la nature, en parallèle au développement des sciences physiques. Et puis le XXe siècle, on va dire que c'est un peu aussi l'apothéose, hein, avec nos sociétés techno-scientifiques. Donc, puis à partir de la seconde moitié du XXe siècle, on se rend compte aussi que ça devient plus compliqué, parce que cet homme qui a une puissance étendue sur la nature, eh bien, détruit la nature, qu'il fait partie de la nature, et puis commence à apparaître toutes ces hypothèses. Alors la philosophie de Michel Serres, par exemple, la tour, qui était invité évidemment de notre thème cette année, et l'hypothèse Gaïa, etc. Donc il y a une reconsidération, non plus l'homme simplement aux côtés des vivants, dépendant des autres vivants, mais vraiment appartenant presque à égalité, mais ce sera à questionner, hein, avec les vivants, et n'ayant peut-être pas plus de droit à s'en emparer. Alors, soit, principe de précaution, notre vie humaine dépend des autres vivants, donc il faut en prendre soin, ou alors aller plus loin, peut-être, éventuellement, hein, questionner une égalité des espèces, enfin, une certaine forme d'égalité, hein, parce qu'évidemment, nous sommes différents. Mais voilà, c'est questionner toutes ces imbrications. Donc, on est vraiment, alors, par exemple, ce week-end, notamment Arnaud Boinich. Alors, je suis co-responsable, en fait, du thème, hein, avec Arnaud Boinich, puis on était une équipe de 8 pour penser ce thème. Arnaud Boinich accueillera, par exemple, Frédéric Worms. Hein. Frédéric Worms, c'est quelqu'un qui, justement, défend qu'il y a un moment du vivant. Hein. Nous sommes dans le moment du vivant depuis, on va dire, voilà, ce tournant du 21e siècle, avec les neurosciences, les sciences cognitives, etc., où on pense l'homme dans la continuité de l'animalité, mais aussi plus largement comme vivant parmi des vivants. Et ce sera l'objet de deux rencontres, hein, samedi et dimanche, à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts.
Alors, quand on parle de l'homme parmi les vivants, il y a, on va dire, 2000, 3000 ans, il y avait beaucoup moins d'hommes dans le monde des vivants. Est-ce que ça change le rapport aux autres vivants, que la population soit aussi humaine, soit aussi nombreuse, et bien sûr avec l'impact qu'elle a sur les autres vivants et peut-être la diminution de certaines espèces? Est-ce que c'est un sujet philosophique?
Je pense que oui, c'est un sujet philosophique, c'est-à-dire qui est lié d'ailleurs à tous les problèmes écologiques aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, l'homme s'empare de la terre, la peuple se développe, et malheureusement, parfois aussi au détriment de certaines espèces. Donc il y a une relation à penser là, eh bien, au vivant et aussi plus largement, sans doute, hein, à la nature, c'est-à-dire les mers, les montagnes, etc. C'est tout un questionnement, effectivement, à interroger l'équilibre de l'homme et la place de l'homme dans la biosphère.
Est-ce qu'on peut être philosophe de la même manière dans un pays où il y a peu d'habitants en densité et un pays où les gens sont en situation de surpopulation?
Alors, je pense, je ne sais pas, je pense que les conditions sont radicalement en fait différentes, effectivement. Si, par exemple, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si je prends une ethnie qui vit en Amazonie et qui a des conditions de survie difficiles, qui doit en plus faire face à des conditions hostiles du gouvernement, déforestation, etc., il est évident que la place de l'homme dans le vivant ne se pense pas du tout de la même manière que nous, dans nos sociétés plus étendues, nos sociétés qui arraisonnent la nature et la considèrent davantage comme acquise. La remise en question du monde occidental dans sa relation avec son environnement et avec la biosphère, elle est quand même plus récente. Disons qu'on n'a pas développé cette sagesse-là de manière, à ma connaissance, très récente. En tout cas, pas dans la philosophie la plus officielle et la plus reconnue de manière académique.
L'homme, d'une manière globale, au travers du temps, a essayé de survivre. Après, vivre, c'est peut-être une notion encore différente philosophiquement. Là, par exemple, on a des pays où la population est très, très nombreuse. Je vois 650 000 bestiaux qui sont dans un immeuble de 26 étages, élevés bien sûr pour produire de l'alimentation en Chine. Ça paraît vertigineux pour nous. Pour un Chinois, bon, il faut bien nourrir des villes de 20 millions d'habitants. Est-ce qu'on a les possibilités, la possibilité d'être conscient de manière universelle, ou est-ce que l'approche locale doit être aussi une lecture qu'on peut comprendre ?
Conscient de manière universelle, c'est un peu, enfin, ce serait prétentieux de le dire comme ça, mais disons qu'en mettant à notre échelle, pas locale, mais régionale, cette question, c'est aussi de faire prendre conscience d'un certain nombre d'aspects, de ce qui se déroule effectivement actuellement. Après, dans notre pays aussi, il y a effectivement de l'élevage pour de l'abattage. Hein. Et il est évident, par exemple, je pense, j'accueillerai samedi 12 novembre Francis Wolff. Bon, c'est quelqu'un qui va penser, par exemple, à, il a un peu le grain de sel dans le thème, parce que lui défend vraiment l'humanisme et il récuse l'idée que nous soyons des vivants parmi les vivants. Il accorde un statut très singulier à l'homme, hein, donc on voulait absolument l'inviter pour justement donner un autre éclairage. Bon, c'est quelqu'un qui va penser différents types de rapports aux animaux. Par exemple, une question qui ne se posait pas du tout il y a encore un siècle et demi, c'était la question des animaux de compagnie, de la relation aux animaux de compagnie, par exemple. Par exemple, au XIXe siècle, les ligues, si on peut dire, de défense des animaux allaient défendre, par exemple, les chevaux en disant « mais on ne peut pas les maltraiter parce qu'on va les manger ». On va les manger et donc ce serait de la viande maltraitée, mal nourrie, frappée, elle ne serait pas bonne pour l'être humain. C'était le biais de défense du cheval. Aujourd'hui, évidemment, où pratiquement on ne mange plus de cheval, etc., les choses ont changé. Donc lui va montrer qu'il y a différents types de devoirs de l'homme, mais qu'il y a aussi différents types d'animaux. Et c'est sûr que par rapport à la question locale ou la question mondiale, souvent l'homme va prêter plus d'attention à ce qui est pour lui individualisé. Donc son chien, son chat, etc. Et puis les animaux qu'on mange, les animaux qu'on ne mange pas. Et bien sûr qu'il y a des différences entre les deux. Mais il y a un respect à avoir effectivement envers ces différentes traditions, attitudes. Mais il n'empêche aussi qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas locale, régionale. Mais qu'à partir du moment où on peut travailler sur l'échelle locale, enfin il est clair... que depuis la crise sanitaire, mais pas seulement, hein, l'économie locale, la relation à notre environnement, en ce qui concerne l'homme, elle est fondamentale.
Alors, nous, en tant qu'espèce, on a forcément un rapport au vivant, on a aussi une dépendance au vivant et on a aussi un impact sur le vivant. Là, on parle beaucoup de déforestation, on parle beaucoup d'espèces qui disparaissent. Il y a à la fois une responsabilité, puis il y a aussi, je ne sais pas si on peut dire l'instinct ou la nécessité de survivre pour l'espèce humaine.
Ah ben, il y a une nécessité, bien sûr, de survivre et puis... l'espèce humaine, alors là on est dans de l'anthropologie ou pas seulement de la biologie, mais on peut la voir comme effectivement l'espèce prédatrice par excellence qui se souvient très exceptionnellement quand elle est la proie d'un animal sauvage qu'elle peut aussi devenir une proie, ce qui déjoue ses représentations. Mais il est clair que cette question des relations et de l'équilibre à trouver, c'est bien sûr l'homme qui devra la trouver et puis la façonner, puisqu'il n'empêche qu'il a un rôle prépondérant et notamment de destruction dans la nature. Alors je voulais ajouter quelque chose, mais qui m'échappe là sur l'instant.
S'il y avait un procès un jour à faire, des hommes par des animaux, voire l'inverse, hein, qui serait le meilleur avocat pour les hommes ?
Oula. L'homme ne pourra être que son propre avocat. Je ne suis pas sûre que beaucoup d'espèces prennent notre défense. Éventuellement, nos animaux de compagnie, Mais je ne sais pas qui pourrait véritablement défendre l'homme. Hein. Vous savez que Bruno Latour, qui défendait l'hypothèse Gaïa, hein, sur la voie de la relation de l'homme au vivant, plaidait pour que finalement chaque être de la nature ait une voix à égalité. hein, est une voie à égalité avec les autres. C'est-à-dire que dans une espèce de... Alors, il appelait, je ne me souviens plus du terme, une espèce de conseil mondial, sa solution, elle était politique et non pas éthique. Hein. Voilà, dans une espèce de conseil mondial, de conseil de la biosphère, eh bien, il faudrait que l'homme représente finalement hein, les mers, les océans portent leur voix, les montagnes, les forêts, et que chacun puisse porter la voix en fait de ces êtres de la nature qui dépassent même dans ce cas-là simplement les vivants. Donc bien sûr c'est ici l'homme qui porterait la parole, hein, l'homme conscient, responsable, qui se mettrait entre guillemets avec toutes les précautions qu'il faut prendre à la place d'eux, hein, du point de vue d'eux. Mais est-ce que d'autres éléments de la nature prendraient notre défense? Je l'espère, mais à voir.
Alors, dans les traditions religieuses, est-ce que l'homme est, d'une manière uniforme, l'élu des dieux ou l'élu de Dieu? Est-ce qu'il est à ce titre différent et à traiter de manière supérieure?
Alors, c'est sûr que dans... le monothéisme, quand même, la création converge vers l'homme. Mais ce qu'on appelle le récit, par exemple, je pense, par rapport à la Genèse dans le monothéisme, dans la Bible, on parle aussi du récit de la deuxième création, par exemple, enfin, la seconde création, c'est-à-dire quand Dieu s'adresserait aux humains hein, pour leur dire qu'ils doivent se soucier de la création hein, et des autres créatures, qu'ils doivent se soucier au sens de s'en préoccuper et aussi, enfin dans le double sens, hein, d'en prendre soin, hein, se soucier et se préoccuper de ça. Souvent, on rappelle ça parce que la tradition monothéiste va plutôt voir l'homme comme le summum de la création. Alors, pour les autres religions, je ne connais pas grand-chose en religion, mais voilà, on va avoir des religions aussi, donc là, ça ne me vient pas, mais bien sûr, où l'homme est un être de la nature parmi la nature. Et bien sûr, par exemple, pour tout ce qui est la réincarnation ou autre, il va falloir respecter le vivant, l'insecte, le moindre vivant, évidemment. Donc, nous avons une relation, enfin, quand je dis nous, c'est...
la civilisation judéo-chrétienne.
Voilà, là, exactement. Bah, là, vraiment, pour le coup, l'homme n'est pas à égalité avec le reste de la nature et avec les autres vivants.
C'est vrai que dans cette religion, on peut imaginer qu'après avoir réalisé l'homme, Dieu a créé de quoi le nourrir.
Oui. Oui. Donc de quoi nourrir l'homme, et puis mais c'est la sueur de son front qu'il doit le faire hein, pour se racheter. Mais à la sueur de son front ne veut pas dire justement en détruisant le reste de la nature. Encore une fois, ce que je trouve intéressant dans ce récit de la seconde création, c'est cette idée de prendre soin. Hein, de prendre soin. Alors certes, l'homme a eu, dans la tradition judéo-chrétienne, eh bien, c'est lui qui a nommé, qui par le langage, autre différence radicale entre les hommes et les animaux, mais aussi, bien sûr, plus largement avec le vivant, il a le langage et il peut les nommer. Bon, voilà, depuis une vingtaine d'années, vous savez qu'en éthologie, toutes ces grandes coupures, ces grandes césures de l'homme au reste de la nature, eh bien, sont remises en question et qu'on met en avant finalement des différences de degrés ou des incompréhensions entre l'homme et le vivant par un anthropocentrisme, hein, le fait que voilà, il projette sur les autres la privation en fait. Hein, nous avons le langage développé par symbole, les bêtes ne l'ont pas, donc elles sont moins que nous, etc. Voilà, c'est un paradigme qui est en train de changer. J'espère pour le meilleur, hein. Encore une fois, l'idée c'est d'essayer de penser peut-être quelque chose de plus harmonieux. On a une relation, je dirais qu'on avait des rapports au vivant, on est peut-être en train de comprendre qu'il faudrait des relations, c'est-à-dire que des rapports, il y a rapport quand il y a deux éléments, on va dire, extérieurs qui se font face à face. Et la relation, c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Hein. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait davantage d'intimité et de connaissance, hein, plutôt que de méconnaissance, de l'homme envers les vivants et envers les vivants humains, non humains. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, des conditions de vie, de survivre. on voit bien que nous vivons, c'est aussi nous survivons. Hein, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, nous voyons les migrants arriver, vivre à même le sol, dans des tentes ou autres, à quelques kilomètres de chez nous. Ben voilà, ces gens sont aussi des survivants. On va bien sûr devoir parler, on en parle déjà, mais des réfugiés climatiques. Donc l'humanité, c'est aussi, bien sûr, survivre dans un monde hostile, ce qu'en Occident, on a peut-être, on va dire, encore une fois, pour caricaturer un peu, parce qu'il y a des gens qui essayent de survivre, évidemment et malheureusement, dans nos sociétés, mais il va peut-être falloir se rappeler que voilà, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous avons vécu depuis plus d'un siècle.
Alors, c'est vrai que, au temps de la préhistoire, hein, on va dire que les hommes étaient plutôt des nomades que des sédentaires et qu'à partir de l'agriculture, les choses ont beaucoup changé, notamment le rapport à l'animal qui est devenu soit un animal de trait ou pour soulager la nécessité de travailler pour l'homme. Et puis aussi, comme animal d'élevage, un peu comme l'agriculture aussi. Donc, est-ce qu'il y a eu un basculement de cette époque-là sur le fait que l'homme est devenu plus puissant qu'avant, d'une certaine manière, parce que domestiquant la nature, est-ce que ça change aussi la notion de positionnement ?
Bah oui, en domestiquant la nature, effectivement, bah, il redouble ce postulat qu'il est le centre, mais aussi le summum. Le summum de la nature, mais je pense que quand même depuis, alors je pourrais pas dater, mais ce qui change aussi, c'est que certes, il domestique la nature, il domestique les animaux, il les met à son service, il a besoin aussi, bien sûr, des animaux pour travailler, pour vivre, pour se nourrir. Comment dire, il y a quand même une sensibilité qui a changé aussi. C'est-à-dire qu'on accepte de moins en moins que même les animaux qui n'étaient élevés que pour nous nourrir, par exemple, aient des conditions d'élevage qui soient indignes. Donc même s'il y a effectivement la sédentarisation, le fait qu'il y ait de l'agriculture, c'était aussi une forme d'attachement. Hein, d'attachement aux animaux. Mais cette sensibilité, je pense que depuis quelques décennies, elle s'est accrue et qu'elle modifie aussi la donne. C'est-à-dire qu'elle est étendue non plus simplement à nos animaux de compagnie, non plus réservée à quelques illuminés qui préfèrent les animaux aux hommes, hein, quand on caricaturait, mais effectivement que les choses sont quand même en train de changer. Mais les vivants, ça n'est pas, ce ne sont pas simplement justement les animaux, ce sont bien sûr tout ce qui est les plantes avec la culture ou autre. Hein. Ce sont aussi les vivants, les bactéries, les virus. Hein.
Alors, j'ai l'impression qu'ils se vengent. Ils vengent peut-être le règne vivant des méfaits qu'on a commis.
Alors là, on a l'impression d'avoir un retour de bâton. Alors, retour de bâton, ce type de virus, on avait eu plusieurs alertes pour l'Europe hein, au début du XXIe siècle, par exemple, et puis ça n'était pas vraiment parvenu jusqu'à nous. Bien sûr qu'il y a des maladies hein, qui ont dévasté des pays entiers et dont on s'est senti protégés pendant longtemps. Et puis là, les frontières sont tombées et ça nous a fait effectivement extrêmement bizarre.
Voilà, donc on comprend que cette problématique est riche en, même en diversité pour le coup.
Oui, oui.
Comment vous allez aborder ça au travers de ce festival donc, qui se déroule du 4 au 27 novembre, est-ce qu'il y a des temps forts ? Est-ce qu'il y a une conférence inaugurale aussi ?
Voilà, alors vendredi à 19h30, Vinciane Després, hein, psychologue, philosophe, qui travaille beaucoup avec les éthologues, viendra faire une conférence inaugurale. On parlait tout à l'heure justement que les vivants, les considéraient comme privés de certains privilèges dont l'homme aurait le monopole. Bah, par exemple, elle va battre en brèche l'idée que les vivants ont une évolution, mais que seul l'homme a une histoire. l'homme aurait aussi une évolution. Hein. On connaît Darwin, mais que l'homme aurait simplement une histoire. Donc ça, c'est la conférence inaugurale. Donc on va dire qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque les vivants comme sujet d'histoire seront d'emblée présents dans la conférence inaugurale. Je pense par exemple aussi dimanche.
C'est au Palais des Beaux-Arts.
Au Palais toujours. Des Beaux-Arts, à l'auditorium. À l'auditorium du Palais des Beaux-Arts aussi dimanche, bah, on a quelqu'un d'important, par exemple, qui vient. Je parlais tout à l'heure aussi, bien sûr, de Frédéric Worms, de Dominique Bourg, Sophie Swatton, hein, pour deux rencontres. Mais on va aussi commencer, on pensait que c'était important, de réfléchir, pour poser les choses, à ce que signifie être vivant. Et notamment, Alain Prochian, hein, neurobiologiste, professeur émérite au Collège de France, viendra. Alors là, c'est un peu, exceptionnel, hein, mais ce ne sera pas une rencontre et une discussion avec un modérateur, mais il nous a demandé, vu l'ampleur du sujet, de faire une conférence sur ce que c'est qu'être vivant, histoire de poser bien les bases de la réflexion. On aura aussi une rencontre Yves Cusset, auteur d'un récent Les mortels et les mourants, hein, petite philosophie de la fin de vie, qui discutera avec Laure Marmioux, qui est une infirmière en équipe mobile de soins palliatifs. Hein, on pourrait dire qu'elle a les mains dans le cambouis. Et il y aura une discussion autour d'eux, parce que nous vivants, c'est aussi, bien sûr, si nous sommes vivants mortels, et comment affronter la fin de vie, et la fin de vie en particulier pour l'homme. Et vous savez que c'est un sujet, là encore, d'actualité.
Voilà, donc on ne peut qu'inciter le public à se rendre nombreux à ces rencontres, à ces conférences. Il y a aussi une trace vidéo de l'ensemble de ce que vous réalisez, hein, il me semble.
Oui, alors soit une trace vidéo, soit un enregistrement audio, hein, qui est placé le plus rapidement possible par nos bénévoles en ligne. Et je rappelle
sur
que
le site citéphilo.org.
Exactement, citéphilo.org. Et je rappelle que toutes les rencontres sont libres d'accès, gratuites, dans la limite évidemment des places disponibles.
Bien, je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup.
Karine Bocquet, on reste dans le timing que vous avez, je sais, vous êtes très, très speed.
Je suis désolée.
Mais vous avez parlé très calmement et très posément, vous voyez qu'on peut y arriver.
On peut y arriver.
Merci beaucoup, très bonne journée.
Bonne journée.